nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, cette fête de la Pentecôte, c'est la venue au monde de l'Église. Véritablement, c'est en ce jour qu'elle va apparaître au monde. Bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ a fondé l'Église avant, mais c'est en ce jour de la Pentecôte, avec ce miracle du Saint-Esprit qui se manifeste sous de la manière d'abord d'un grand vent et ensuite sur les apôtres, les disciples, la très sainte Vierge réunie au Cénacle sous forme de ces espèces de langues de feu, de petites flammes qui expriment tout ce qu'est le Saint-Esprit, esprit d'amour qui réchauffe, esprit de vérité qui éclaire évidemment les âmes. En ce jour de la Pentecôte, donc venu au monde de l'Église, nous voyons, notamment dans les Actes des Apôtres qui relatent cet événement, nous voyons les éléments qui font en réalité l'Église. D'abord, nous voyons que l'Église est fondée sur une autorité, sur un chef, et sur d'autres autorités dans l'Église. Nous voyons les apôtres sortir du Cénacle, effectivement. Mais qui est-ce qui prend la parole principalement? C'est l'apôtre Pierre. Le premier discours de Saint-Pierre, le premier discours du premier pape, nous l'avons en ce jour de la Pentecôte. C'est juste ce qui suit en réalité les Actes des Apôtres, le petit paragraphe que vous venez de lire. Donc l'apôtre Saint-Pierre agit en tant que chef de l'Église. Il avait été nommé par notre Seigneur Jésus-Christ, confirmé par notre Seigneur Jésus-Christ, « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Après la résurrection, notre Seigneur l'a interrogé 3 fois, « Pierre, m'aimes-tu ? » Et à chaque fois, Saint-Pierre a répondu « Oui, Seigneur », en réponse, bien sûr, à son triple reniement. Et notre Seigneur l'a confirmé en tant que pasteur de ses brebis, pasteur de ses agneaux, c'est-à-dire pasteur non seulement de tous les fidèles, mais pasteur aussi des autres apôtres, et donc pasteur des évêques à travers le monde. Donc nous avons une autorité de la Sainte Église qui est bien nette, bien dessinée en ce jour de la Pentecôte. L'apôtre Saint-Pierre ne demande pas l'accord des autres, il ne convoque pas, il n'est pas dans la synodalité, n'est-ce pas, dans la collégialité, etc. Non, sous l'influence du Saint-Esprit, il ouvre les portes du Cénacle et c'est lui qui s'adresse aux personnes qui s'étaient réunies là, parce que le monde n'a pas changé, les hommes n'ont pas changé. Quand il se passe quelque chose de spécial, des grands bruits, etc., eh bien tous les gens se rassemblent, et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, pour leur plus grand bien, évidemment. Et justement, le deuxième élément que nous voyons en ce jour de la Pentecôte, c'est que l'Église est un peuple. Il n'y a pas juste ces apôtres qui ont été choisis par notre Seigneur Jésus-Christ, les disciples, les saintes femmes, la Sainte Vierge en premier qui était présente. Il y a tout un peuple qui va se former, le nouveau peuple de Dieu, duquel l'ancien était une image, simplement une pâle image. Le nouveau peuple de Dieu, c'est le peuple de la Sainte Église. Et c'est pourquoi Saint Luc, dans ses actes, il insiste, puisque cette fête de la Pentecôte était déjà une fête juive, pour cette raison beaucoup de monde était réuni à Jérusalem. Non seulement d'ailleurs des juifs qui venaient des contrées dans lesquelles ils avaient été dispersés, hein, puisque avec l'exode à Babylone, à Ninive. Ensuite, il y a eu la domination des Grecs et des Égyptiens. Il y avait des Juifs un peu partout dans le bassin méditerranéen et beaucoup se rassemblaient à ce moment-là pour ces fêtes à la fois de Pâques et ces fêtes de la Pentecôte. Notons-le bien, d'ailleurs, vous avez pu lire, je ne sais pas la traduction que vous avez dans vos missels, hein, il est dit qu'il y en a qui viennent du Pont, qui viennent de telle ou telle région, et dont la Judée. Hein, donc parfois on pourrait être tenté de traduire juif. Il faut savoir que juif, au départ, ça veut dire quoi? C'était les habitants de la Judée, tout simplement. Donc ce que nous voyons, c'est que sont rassemblés de toutes les régions autour de Jérusalem, de tous les peuples, de toutes les races, puisque nous le verrons après, ce baptême évidemment du ministre de la reine d'Éthiopie, la Candace. Donc c'était certainement un Éthiopien, donc un Africain, donc un Noir, et de toutes les races sont rassemblés autour des saints apôtres, et donc ça montre que le nouveau peuple, il est absolument catholique. Il n'est pas limité aux descendants d'Abraham selon la chair, et d'Abraham ensuite, bien sûr, selon la descendance Abraham, Isaac et Jacob, hein, donc discrimination avec la descendance du frère de Jacob. Non, le peuple élu, le nouveau peuple élu, le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est tous ceux qui veulent rentrer dans la Sainte Église. C'est donc notre troisième élément. Comment faire partie de ce peuple de Dieu? Parce que il ne suffit pas d'être humain, de quelconque race, langue, pays, etc., pour être dans l'Église du Christ, contrairement à ce que prétend évidemment Vatican II. Non, cela ne suffit pas, parce que l'Église du Christ, c'est l'Église catholique, apostolique et romaine, contrairement à ce que dit Vatican II. Donc pour rentrer dans l'Église, eh bien, il va falloir d'abord adhérer à cette doctrine, qui est enseignée par l'apôtre Saint-Pierre. Qu'est-ce qu'il enseigne dans son premier discours? Eh bien, il s'adresse à tout ce peuple qui avait pu vivre les événements de la Passion. Certains avaient peut-être crié contre notre Seigneur Jésus-Christ qu'il soit crucifié. Certains avaient peut-être demandé la libération de Barabbas. Il ne le cache pas, Saint-Pierre. Il leur dit directement, ce Jésus dont vous avez entendu parler, ce Jésus que vous avez fait crucifier, il le dit explicitement. Il n'a plus peur, l'apôtre Saint-Pierre. Il a ouvert les portes du Sénat, qui sont tous sortis, et sous l'influence, avec la force du Saint-Esprit, il sait ce qu'il faut dire, et ses paroles sont fortes. Il faut dénoncer les mauvais comportements et il faut que ce peuple qui avait pu participer de près ou de loin à la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, à sa condamnation, se convertisse. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe parce que il est dit, juste après ce résumé du discours de Saint-Pierre, l'apôtre Saint-Luc nous montre que ces personnes rassemblées étaient pris de contrition, pleuraient et se demandaient ce qu'ils devaient faire. Voilà. Et donc, que faire? Reconnaître ses propres fautes et adhérer à notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, mort pour nous, ressuscité d'entre les morts pour nous et évidemment monté au ciel. Donc on a un chef, on a un peuple, on a une seule foi, une seule doctrine, la doctrine enseignée en permanence depuis Saint-Pierre et en permanence évidemment par l'Église. Ensuite, il y a une seule fin, un but. Qu'est-ce que l'apôtre offre aux fidèles? Il leur offre la sanctification par notre Seigneur Jésus-Christ. la sanctification de notre côté et du côté de Dieu, c'est évidemment sa gloire, parce que tous les événements du monde, toute la création en elle-même, mais en particulier les événements de l'incarnation du Verbe de Dieu, les événements de sa passion, de sa mort sur la croix, de sa résurrection, de son ascension, tous ces événements ont pour but, et même notre sanctification, ont pour but rien d'autre que la gloire de Dieu, parce qu'il ne peut pas en être autrement. Donc, nous avons un chef, un peuple, une doctrine, un seul but, c'est-à-dire, parce que c'est qu'un seul but en fait, notre sanctification fait partie de l'ordre de la gloire de Dieu. Notre propre sanctification, qui est un devoir, qui est aussi un désir, une volonté que nous devons avoir, évidemment, cette sanctification n'a pour autre but que la glorification de Dieu, parce que nous sommes faits pour la gloire de Dieu. Ensuite, il y a un moyen, la grâce. La grâce qui est la grâce sanctifiante. Après, cette grâce sanctifiante, elle va être conférée par Dieu par de nombreux moyens, mais tous ces moyens sont ordonnés soit à l'acquisition de la grâce sanctifiante, soit à son augmentation en nous, soit au fait de acquisition, c'est-à-dire de revenir dans la grâce de Dieu lorsque nous nous sommes éloignés d'elle, lorsque nous l'avons perdue. Ces moyens, bien sûr, ce sont toutes les grâces actuelles que le bon Dieu peut nous donner. Ces moyens, bien sûr, ce sont les dons du Saint-Esprit. Ces moyens, ce sont les charismes aussi extérieurs, c'est-à-dire ce que nous voyons ici dans cet épisode, le fait de parler des langues étrangères qu'ils ne connaissaient pas, et puis tous les miracles que les apôtres vont faire au cours de leur vie sur terre pour confirmer, bien sûr, leur mission. Ce sont aussi des grâces extérieures pour ceux qui en profitent. Et enfin, le plus important, je dirais, parce que ce sont les moyens ordinaires institués par notre Seigneur Jésus-Christ, ce sont les sacrements. Et là encore, dans cet épisode de la Pentecôte, nous voyons les sacrements en œuvre, notamment le sacrement du baptême, puisque Saint Pierre les invite à se faire baptisés à partir du moment où ils ont la contrition, où ils ont compris, avec l'aide du Saint-Esprit et du discours de Saint-Pierre, ils se font baptiser. Et donc on a plusieurs milliers de personnes qui vont être baptisées en ce jour de la Pentecôte. Combien persévéreront, on n'en sait rien, mais malheureusement, il est probable que bon nombre n'auront pas persévéré, hélas. Le lien de ces cinq éléments n'est autre que le Saint-Esprit lui-même. La fête de la Pentecôte, c'est la fête du Saint-Esprit qui descend sur les apôtres, bien sûr. Cette fête de la Pentecôte nous montre le lien intime entre le Saint-Esprit et la Sainte Église. Du côté de l'autorité de l'Église, le Saint-Esprit donne à la Sainte Église, dans ses autorités, le charisme de l'infaillibilité. Cette infaillibilité qui n'est pas inspiration. Le Concile du Vatican, Vatican I, le Concile du Vatican donc nous dit explicitement, distingue deux choses. Il y a l'action du Saint-Esprit sur les auteurs de l'Écriture sainte, ceux qui vont transmettre la parole de Dieu écrite. C'est ce qu'on appelle l'inspiration du Saint-Esprit. Cette inspiration du Saint-Esprit, elle se termine à la mort de l'apôtre Saint-Jean. Après, ceux qui vont se dire, ou se croire, ou être réellement inspirés du Saint-Esprit, ne le seront jamais de la même manière que les auteurs des Saintes Écritures. Et donc, si on parle d'inspiration divine ou d'inspiration du Saint-Esprit, on en parlera, mais pas dans le même sens. Le sens strict, profond, le plus théologique, c'est le sens de l'inspiration des livres saints. Nous pouvons avoir des bonnes pensées et nous dire véritablement inspirés du Saint-Esprit, oui, mais ça n'a aucune mesure avec l'inspiration divine des livres saints. C'est très important de le comprendre. De même, certaines personnes vont avoir dans l'histoire de l'Église des révélations. Il n'y a jamais d'inspiration dans ces révélations. Il faut bien le comprendre. Jamais d'inspiration comme l'inspiration de la Sainte Écriture. Donc, quand quelqu'un, une personne favorisée, va éventuellement recevoir, pour autant que ce soit vrai et pas le fruit de son imagination, parce que des personnes pieuses peuvent imaginer entendre des voix de Dieu, retransmettre des choses qui n'auront rien spécialement contre la foi et les mœurs, mais en fait, c'est de la pure imagination. Donc il faut être très vigilant. La seule inspiration, c'est celle, et la révélation en tant que telle que nous devons garder, c'est la révélation des Saintes Écritures. Toutes les autres révélations, eh bien, il faut aussi rester prudent et ne pas tout mettre sur le même plan. Au-dessus, bien sûr, justement, des révélations privées, en distinction de l'inspiration, il y a l'infaillibilité. L'infaillibilité de l'Église, et ce n'est pas d'avoir de nouvelles révélations, de nouvelles inspirations divines. Quand le pape enseigne infailliblement, ce ne sont pas des inspirations divines. Le Concile du Vatican le dit explicitement. Le paragraphe est très net. Il faut distinguer l'infaillibilité de l'inspiration qu'on a dans les livres saints. Ce qui fait que l'infaillibilité, elle va consister justement en une impossibilité. Donc dans le mot infaillible, dans le mot impossible, il y a ce préfixe privatif, négatif. Ce n'est pas, c'est important de le noter justement. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'y aura pas de nouvelles révélations. L'infaillibilité est là pour que l'autorité de l'Église, à savoir le pape seul, ou le magistère ordinaire universel de l'Église, alors le pape, que ce soit dans son magistère solennel ou même dans son magistère ordinaire, de toute façon, à chaque fois qu'il définit quelque chose, eh bien, il est infaillible. Il ne peut pas en être autrement. C'est pas à lui de choisir, tiens, aujourd'hui, je vais sortir mon infaillibilité. Où est-ce qu'elle est ? Non, c'est pas... Il n'y a pas un dressing, là, où on va chercher, tiens, aujourd'hui, infaillibilité, aujourd'hui, ceci. Non, pas du tout. Alors, une fois qu'il définit quelque chose, comme devant être cru, et donc, dans l'énoncé même, il est nettement dit que les fidèles doivent croire ou faire ceci, eh bien, dans ce cas-là, il est infaillible, c'est tout. C'est juste objectif. Il ne contrôle pas, si j'ose dire, cela. Voilà. Donc l'infaillibilité, justement, vient garantir la Sainte Église. Et c'est pour ça que nous avons toutes ces définitions de l'Église qui viennent aujourd'hui nous éclairer. C'est aussi sur cette infaillibilité que va se fonder le deuxième élément, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Alors, il est fondé sur tous les éléments, le peuple de Dieu. Mais pour que nous croyions à la doctrine, c'est le troisième élément, il faut que cette doctrine soit sûre. Pour savoir quel est le but, C'est le quatrième élément. Quelle est la fin? Pour savoir quels sont les moyens, le cinquième élément, la grâce sanctifiante, la foi, bien sûr, la pratique des vertus, les sacrements. Pour savoir quels sont les moyens, il faut que nous en soyons sûrs. La Sainte Écriture toute seule, ce n'est pas suffisant. La preuve en est, c'est que les protestants, par exemple, sont séparés en de très nombreuses sectes qui croient des choses, d'ailleurs, très disparates, même parfois contradictoires. Donc, visiblement, le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que si, même dès le début, hein, les Mélenchon, Luther, Calvin, etc., même les premiers protestants se tapaient dessus, doctrinalement. Il y avait des points de contact, de taper sur l'Église, ça tout le monde est d'accord, mais pour la doctrine, ils n'étaient pas tous d'accord. Les uns retenaient un peu tous les sacrements, plus ou moins, les autres aucun des sacrements, ou seulement le baptême. Donc on voit que le Saint-Esprit n'est pas là. Donc comment avoir cette unité parmi les fidèles? Eh bien, il nous vient de l'unité de la doctrine. Et l'unité de la doctrine nous vient de l'enseignement de la Sainte Église. Et l'enseignement de la Sainte Église, nous savons qu'il est infaillible parce que le Saint-Esprit, effectivement, vient garantir cet enseignement. Lorsque l'Église nous dit « nous devons croire ceci », eh bien, nous devons le croire. Lorsque l'Église nous dit « nous devons faire ceci pour être sauvés », eh bien, il faut faire ceci pour être sauvé. Lorsque l'Église nous dit « il y a 7 sacrements », eh bien, il y a 7 sacrements. Pas un de plus, pas un de moins. Ça ne change pas et ça ne changera jamais. C'est aussi ce que dit le Concile du Vatican. Ces décisions sont absolument irréformables par elles-mêmes. Tout simplement parce que la foi ne change pas. Donc voilà l'action véritablement du Saint-Esprit dans la Sainte Église. Le Saint-Esprit vient montrer aux fidèles par l'autorité de l'Église et quels sont les moyens de salut, quel est le but, quelle est la doctrine à croire. Donc, qu'est-ce que nous avons à faire spécialement dans le chaos d'aujourd'hui? Croire à la Sainte Église catholique. Ce ne sont pas des mots. Quand vous récitez, quand vous chantez le credo, quand vous dites que vous croyez unam, sanctam, catholicam, et apostolicam, ecclesiam, eh bien il faut croire à ces réalités, à cet acte de naissance de la Sainte Église le jour de la Pentecôte, croire à son autorité de l'Église divinement assistée, croire que cette Église existera jusqu'à la fin du monde. C'est aussi une vérité de foi. Elle peut subsister de manière plus ou moins visible, mais tant qu'il y aura des fidèles catholiques, tant qu'il y aura des évêques catholiques, parce que sans évêques, il n'y a plus d'Église. L'Église n'est pas fondée, c'est pas juste un peuple de Dieu, parce que il faut des sacrements. Tant que l'Église aura la possibilité d'avoir un pape, jamais il n'a été dit, et que nous devons croire, que en 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, peu importe quand adviendra la fin du monde, peut-être dans 10 000 ans ou 1 million d'années, nous n'en savons rien, eh bien, tant que la fin du monde n'aura pas eu lieu, l'Église continuera à avoir cette possibilité d'avoir un chef. Il n'a jamais été dit qu'en acte, à chaque instant de l'existence de la Sainte Église, il y aurait un pape en acte. Il y a eu des périodes de vacances, bien sûr, pas uniquement les petites vacances. Vacances, hein, ça veut dire que le siège est vacant, c'est-à-dire vide. Oui, parce que évidemment, le mot peut être ambigu aujourd'hui, bien que l'origine est la même. Hein. C'est-à-dire que quand les élèves sont en vacances, eh bien, leurs sièges sont vacants à l'école. De même dans votre emploi. Donc, il y a eu des périodes de petites vacances, des élections qui vont plus ou moins vite. Il y a eu des périodes de grandes vacances, hein, une vacance très documentée d'à peu près 4 ans, par exemple. Il y a eu le grand schisme, où apparemment, il y a eu un moment jusqu'à 3 papes. On ne savait même pas lequel était le vrai. Peut-être qu'aucun d'entre eux n'était véritablement pape. 35 ans. Donc, quand on nous dit « c'est pas possible pendant 70 ans », en fait, si c'est possible pendant 4 ans, c'est possible pendant 70 ans. En fait, ça change rien du tout. Surtout à l'échelle de l'éternité divine. Le fait, c'est pas que ce soit possible, c'est que d'une part, c'est pas contre la pérennité de l'Église. Tant qu'il y a un moyen d'élire un pape, tant qu'il y a des évêques, tant qu'il y a des prêtres, tant qu'il y a des sacrements, tant qu'il y a des fidèles, tant que la foi est prêchée, même s'il n'y a pas un pape en acte, l'Église continue d'exister et garde cette capacité, c'est tout. Bien sûr, il n'en faudrait pas en tirer des conclusions hâtives comme certains qui prétendraient se choisir ou s'élire un pape en dehors de tous les éléments de la théologie catholique sur ce sujet et aussi bien sûr les éléments canoniques. Ce serait bien entendu voué à l'échec de vouloir faire cela, nonobstant le fait que ce serait contre les principes de la foi et les principes du droit canonique. Donc, c'est pas que tout va bien, c'est pas le problème, c'est que nous devons croire et chacun faire simplement notre devoir. Être à notre place. C'est un des problèmes de notre société. Personne ne veut être à sa place. Tout le monde veut être tout. Ils sont spécialistes en tout, ils savent tout sur tout. Enfin, tout le monde est comme ça maintenant, on a un avis sur tout, on commande tout. On est tous les chefs, parce que ça c'est la mentalité démocratique. On sait tous toute la vérité sur tout. Bref, non. Le catholique, pour le rester, il est humble. Moi comme vous, nous faisons partie de l'Église enseignée. Qui est-ce qui nous enseigne aujourd'hui? Effectivement, ce n'est pas celui qui se fait appeler Léon XIV. Qui est-ce qui enseigne aujourd'hui? Eh bien, c'est l'Église qui continue à nous enseigner. Parce que grâce à Dieu, cette crise, elle n'arrive qu'après 2000 ans d'histoire, de dogme. Et par conséquent, nous avons toutes les armes. Nous aussi, je vous le dis régulièrement, et ça fait un moment que je ne vous l'ai pas dit, mais nous aussi, nous sommes infaillibles. Oui. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la prétention. Nous sommes infaillibles, non pas comme l'autorité de l'Église, qui est infaillible en enseignant « in docendo », comme disent les théologiens en latin. Nous sommes infaillibles « in credendo » dans notre foi. À partir du moment où nous croyons tout ce que l'Église a toujours enseigné, nous ne pouvons pas nous tromper. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'humilité. Les autres veulent nous faire croire que c'est de l'orgueil, de penser que nous avons la vérité. Non, l'orgueil, il est dans le jugement que ces personnes ont sur la vérité elle-même. Ils relativisent la vérité, voire ils la nient. Ça, c'est de l'orgueil. Pour se forger leur propre religion, leur propre vérité. Nous croyons ce que l'Église a toujours enseigné. C'est tout. nous pratiquons les sacrements qui ont toujours eu cours dans l'Église. C'est tout. Nous obéissons aux commandements qui ont toujours eu cours dans l'Église. Nous obéissons et nous vivons selon les vertus qui ont toujours été les vertus prêchées par l'Église. Donc croire la Sainte Église catholique, c'est aussi cela en pratique. Restons à notre place. Le reste, il appartient à Dieu. Ce que nous avons à faire dans cette crise dans l'Église, c'est cela. Être des bons petits soldats à notre place. Comme je vous le disais l'année dernière, sur les murs de Jérusalem, comme dit la Sainte Écriture. Voilà. Jérusalem, c'est l'Église. Nous en sommes en quelque sorte les gardiens aujourd'hui dans cette crise. Des gardiens qui sont des petits soldats, inconnus, invisibles. Nous sommes les premiers à nous faire taper dessus, effectivement. Mais nous devons être là. Non pas en faisant les malins, non pas en nous croyant pour les chefs, non pas en nous croyant plus parfaits que les autres, mais simplement en tenant notre poste. Et comment tenir notre poste? Justement, en croyant la Sainte Église catholique, en croyant tout ce qu'elle a toujours cru, et en le professant dans nos paroles, en le professant dans notre vie. Le reste, quand le bon Dieu nous délivrera-t-il de cela? Quand est-ce qu'il nous redonnera un véritable chef visible sur terre de la Sainte Église? Eh bien, cela ne relève pas de nous. Et donc, ce qui ne relève pas de nous, on doit l'abandonner à la divine providence. Ça sert à rien de se casser la tête, ça sert à rien d'inventer des fausses doctrines sur ce sujet, ou de faire des actions complètement absurdes. Non. Ce qui sert à l'Église, c'est d'être à notre place. Donc demandons en cette fête de la Pentecôte au Saint-Esprit, demandons à la Très Sainte Vierge, demandons aux saints apôtres, évidemment en premier lieu à Saint-Pierre, tout simplement d'être de bons fidèles catholiques à notre place en croyant la Sainte Église, en professant la doctrine de la Sainte Église, en vivant de ses commandements, en vivant de ses sacrements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.